Chers amis de Radio Courtoisie, bonjour. Olivier Figueras au micro pour ce dimanche. Comme vous l'entendez, j'ai un petit problème de laryngite, alors je vais essayer de m'acquitter de ma tâche sans trop vous écorcher les oreilles. Mon père aurait dit que j'ai une voix de rogomme. Et j'ai donc aujourd'hui à mes côtés Jeanne Smits, comme de coutume. Bonjour Jeanne.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Olivier.
Et nous recevons avec plaisir l'abbé Marc Gelfucci, qui est prêtre du diocèse de Paris. Bonjour monsieur l'abbé.
Bonjour à tous.
Et petite erreur déjà. Bonjour monsieur le chanoine.
On peut aussi. Des minimis, enfin bon. Le latin est autorisé, Radio Courtoisie. Quoi qu'il en soit, nous allons évoquer une question d'actualité. J'ai intitulé l'émission « Sacre, point d'interrogation, déconarum et retour ». Parce que des retours, il y en a dans le temps et également dans les discussions. Alors, Jeanne, pouvez-vous nous brosser un rapide rappel de la situation ?
Très rapide, puisque nous avons un spécialiste qui est non seulement docteur en droit civil, mais docteur en droit canonique. Donc,
doctorant.
Je pense. Pardon ?
J'ai pas terminé mon
doctorat.
Ah, vous
n'avez pas doctorant ? Ah, j'ai compris, docteur en. Donc, doctorant. Tout est dans la nuance. Doctorant en droit canonique, mais vous avez certainement déjà suffisamment de connaissances pour pouvoir nous éclairer sur une question qui est fondamentalement liée au droit canonique, à savoir la décision de sacrer des évêques sans la volonté du pape ou contre la volonté du pape. Alors, en l'occurrence, nos auditeurs l'auront bien compris, en cette émission de Lumière de l'Espérance de Radio Courtoisie, nous allons évoquer la grande nouvelle de ces derniers jours, à savoir la décision l'annonce par la fraternité Saint-Pie-X de vouloir sacrer des évêques avec ou sans l'accord de Rome. Et ça n'est pas une nouveauté, puisqu'en 1988, Monseigneur Lefebvre avait déjà pris cette décision. On sait combien cela avait été douloureux. Je crois que ça a été douloureux pour lui, je pense qu'on peut le dire. Il avait pris la décision de sacrer 4 évêques qui en étaient sans en être, puisqu'ils n'ont aucune juridiction. Ils sont là pour pouvoir ordonner des prêtres dans la fraternité Saint-Pie-X pour confirmer et d'autres choses de ce style, pour maintenir la continuité de cette œuvre, dont il faut bien dire, là je le dis pour nos amis de la fraternité Saint-Pie-X qui nous écoutent, qui a joué un grand rôle dans le maintien de la messe traditionnelle, et sans eux, certains d'entre nous ne serions peut-être pas là où nous en sommes. Mais quoi qu'il en soit, il avait pris cette décision pour un motif qu'il appelait l'état de nécessité. Ça, vous nous en parlerez, monsieur le chanoine Gelfucci. Et cela avait causé, il faut le dire, une certaine rupture au sein des amoureux de la liturgie traditionnelle, de ceux qui la préfèrent, qui la pratiquent, dont elle maintient et qu'on préserve la foi, il faut bien le comprendre comme ça. Rupture parce que certains étaient d'accord, certains n'étaient pas d'accord, il y a eu des noms d'oiseaux dans tous les sens, mais il y a eu la fondation de la Fraternité Saint-Pierre, puis d'autres instituts religieux qui, soit de manière totalement autonome, soit en faisant scission, avaient opté pour ce qu'on appelle aujourd'hui, mais là aussi c'est un terme qui est controversé, la pleine communion avec Rome. Et aujourd'hui donc, ces 4 évêques commencent à prendre un peu d'âge, ils ne sont pas si âgés que ça.
2.
Et il n'en reste plus que 2, 2 autres, un est
les
parti,
autres ne sont
est mort.
Plus âgés du tout.
Un parti, Mgr Williamson, dans les circonstances que l'on sait, et qui a fait une espèce de contre-œuvre et qui a défrayé la chronique avec ses positions que l'on dira extrêmes sur un certain nombre de sujets dont certains ne sont pas vraiment sortis, par exemple son attitude à l'égard des femmes qui me morrifiait complètement, alors que c'était un grand amoureux de la littérature, enfin bref. Lui, il avait quitté, il était parti, un autre est décédé et il en reste 2 de ses évêques qui ont moins de 70 ans, en tout cas. Une œuvre qui a grandi, qui a ordonné beaucoup de prêtres, Et aujourd'hui, la fraternité a annoncé vouloir sacrer de nouveaux évêques au 1er juillet prochain pour répondre à un nouvel état de nécessité, la nécessité d'avoir des évêques, entre autres, pour ordonner leurs futurs prêtres, mais dans une situation qui est largement différente, puisqu'aujourd'hui, la messe traditionnelle, par divers biais, que ce soit par les instituts fraternités qui se sont liés à Rome de manière plus explicite, donc cet état de nécessité est différent puisqu'on a ces instituts, mais on a aussi le motu proprio sumorum pontificum qui a permis au diocèse de laisser célébrer beaucoup plus largement la messe traditionnelle, mais avec tout un tas de limitations introduites par Traditionis Custodes, qui touchent notamment les autres sacrements que l'Eucharistie. Mais peu ou prou, il y a des ordinations dans le rite traditionnel, elles peuvent être faites par d'autres évêques. On est quand même dans un contexte très différent, et aussi dans un contexte différent dans le sens où la fraternité Saint-Pidis est aujourd'hui moins marginalisée, en tout cas du point de vue des fidèles, qu'elle ne l'a été, et qu'il y a bien des gens qui pratiquent aussi bien à la fraternité Saint-Pidis ou dans d'autres instituts ou dans des messes diocésaines sans vraiment y voir de problème. Et je pense, mais ça vous allez nous éclairer, monsieur le chanoine, cela va créer de nouvelles ruptures, de nouvelles difficultés, des gens qui ne sauront plus quoi faire, des gens qui auront un pied à peu près dans chaque camp et qui, avec plus de deux pieds bien évidemment, et des difficultés qui sont à prévoir. Monsieur le chanoine, que pensez-vous donc de la décision de la Fraternité Saint-Pidis de sacrer des évêques et en écrivant au pape, avec ou sans l'accord du pape Léon XIV ?
Eh bien, tout d'abord, voyez-vous, interdire ou ne pas permettre un acte simple, mais fort, mais simple, de sacrer des évêques, il faut aussi une raison pour refuser. Je partirais de ce point de vue. Voyez. Donc, le fait même de refuser qu'un évêque ayant eu une formation très classique, traditionnelle, soit ordonné ou sacré, comme on dit, il y faut une raison. S'il n'y a pas de raison, on provoque une tension inutile. Pendant des siècles, on a sacré des évêques et on en référait à Rome suivant des coutumes très différentes. Le fait d'une très grande centralisation et d'une communication parfaite au XXe siècle et au XXIe siècle fait que ça devient problématique. Mais donc je prendrai le problème de ce côté-là. Pourquoi refuser ? D'abord, pourquoi la Fraternité Saint-Pidis, pourquoi Mgr Lefebvre a été suspend pour ordonner prêtre des sujets ? Et pourquoi on lui a refusé d'avoir des évêques ? Quel est le mal qui est empêché par l'acte du souverain pontife dans son refus. Et donc, s'il y a une disproportion entre le refus et la simplicité de la chose, qui est admise un peu partout, comme par exemple, je parlerai pas tout de suite de ce qui fâche, mais donc je prends le problème de ce côté-là.
Alors, monsieur le chanoine, un instant, je me permets de préciser aux auditeurs qu'il n'y a personne au téléphone et que si vous voulez intervenir, il faut que ce soit par email, l'email habituel de Radio Courtoisie. Monsieur le chanoine, donc, je reviens à ce que vous venez de dire. Nous avons précisé tout à l'heure que vous étiez doctorant en droit canonique et donc on s'attend à ce que vous affirmiez une position qui correspond à votre connaissance du dogme et de la discipline de l'Église, Et là, vous nous donnez une idée qui n'est pas on pose le droit, mais qui est pour comment le droit s'organise.
C'est-à-dire que c'est le pourquoi du droit. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un cursus entier en droit civil. Donc j'ai fait 5 années de droit de cours et puis un minimum de 3 années de recherche un peu plus longue, mais de 3 années effectives. Et donc je suis imprégné de la loi naturelle parce que j'ai eu des professeurs qui étaient eux-mêmes encore très latins dans leur pensée. C'était pas le canon law, c'était pas le droit anglo-saxon. C'est une loi qui est extrêmement positiviste. Malgré l'impression d'une jurisprudence souple par les juges anglais, par les juges américains. En fait, c'est « the law is the law ». Et donc, actuellement, on nous oppose toujours l'obéissance, alors qu'il faut toujours savoir pourquoi il y a une loi, pourquoi il y a une interdiction. Pour vous faire plaisir, et pour faire plaisir aux auditeurs légalistes et positivistes, c'est le canon 1382, qui, comment dire, punit de l'excommunication laté sentencié le sacre d'évêque sans mandat pontifical. Mais il y a d'autres canons qui justement évoquent l'acte moral en cas de nécessité et la désobéissance légitime, enfin le fait de ne pas obéir à un ordre, parce que c'est contraire au droit divin, à la morale. Et donc,
et au bien des âmes,
qui et au bien en avant. Et au bien des âmes, et le dernier canon du code de droit canonique, parce que je révèle aux auditeurs que comment dire que l'adjectif est canonique et le mot canonique et l'article lui-même c'est le canon et ça vient de roseau, de canon. Et alors pourquoi le roseau signifie une règle? Mais parce que le roseau, c'est droit, et c'est comme une règle, d'ailleurs, la règle qui permet de faire des lignes droites, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, mutatis mutandis, on va passer du roseau à l'article de loi.
Mais le roseau est souple?
Non, habituellement, il n'est pas très souple.
On s'en servait autrefois dans l'Antiquité pour battre les élèves, pour donc battre les élèves. Il ne peut pas être très souple.
Il est une souplesse relative.
Ah.
Donc en tout cas, l'article dans le code est devenu un canon, voyez, et c'est un terme qui a été utilisé dans les conciles régionaux, les conciles écuméniques, pour exprimer la règle. Alors ce canon 1382, si je ne m'abuse, il est au service du dernier canon du code de droit canonique, qui est que le salut des âmes est la loi suprême.
Vous évoquez ici le code de droit canonique
de 1983.
Voilà. Oui.
Alors, monsieur le chanoine, je vous entends bien, mais il me vient immédiatement, peut-être mon rôle, non pas d'être l'avocat du diable, mais les journalistes me posent toujours des questions pour essayer de faire avancer un problème. S'il en est ainsi, et nous venons d'évoquer deux termes dont l'un est la nécessité et d'autre le salut des âmes, il y a des critères objectifs, mais chacun les voit en fonction de situations qui sont tout de même empreintes, sinon de relativisme, du moins de certains subjectivismes.
Tout à fait.
Et si ce subjectivisme peut l'emporter en plaçant le vocable de salut des âmes au-dessus de tout, qu'est-ce que devient le droit?
Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle ceux qui vont accuser les traditionalistes d'être finalement des progressistes, des modernistes, puisqu'ils sont subjectivistes et ils interprètent le salut des âmes à leur façon... Et ce sont des néo-protestants, d'ailleurs c'est ce que parfois j'ai entendu. Ça me fait sourire parce qu'il y a une certaine objectivité dans la foi et la morale. Et puisque l'émission dure un certain temps, j'aurais souhaité qu'on développe ce cas de nécessité, qu'on développe les éléments qui sont reprochés au fait de refuser le mandat pontifical à un évêque qui est choisi au sein d'une société cléricale et qui peut, dans les siècles passés, enfin c'était pas cette structure-là, mais c'est une structure qui a été acceptée, qui peut avoir un évêque. Voyez. Mutatis mutandis à nouveau, ce qui doit être apprécié différemment suivant la situation étant adapté, l'Opus Dei avait un prélat qui était un évêque. Et puis, le pape François en a décidé autrement. Mais comme à l'Opus Dei, ils sont très obéissants et très respectueux, ils n'ont pas fait de commentaires, mais en soi, c'est une certaine souffrance pour eux que leur responsable ne soit pas évêque alors qu'ils ont plusieurs centaines de prêtres. Et même si 90% de l'Opus Dei sont des laïcs, mais si vous voulez, de manière générale, il y a quand même des grâces d'État dans le fait d'être évêque.
Juste une petite remarque préliminaire, avant d'entrer dans le vif. Vous, monsieur le chanoine, Gelfucci, vous êtes vous-même, si je puis dire, originaire de la fraternité Saint-Pie-X.
Et d'ailleurs, c'est une particularité qui fait l'intérêt, à mon avis, de mes propos ce midi. Parce que on ne peut pas me la faire. Je suis né à Paris en 1970, en pleine crise. J'ai été au catéchisme dans ma paroisse, à l'Immaculée Conception, au temps de l'Évangile selon saint Marc, puisque à l'époque, le curé qui avait été nommé était à vider l'église. Et donc, moi j'ai fait un catéchisme jusqu'à la sixième, jusqu'à mes 11-12 ans. On m'a jamais évoqué la confession. Où je voyais une image de la statue de la Vierge Marie Notre-Dame de Lourdes avec un chapelet, on m'a jamais parlé du chapelet. Donc, la crise de l'église, sur ce avec le petit bout de la lorgnette, moi je l'ai vu. Ensuite, d'autant plus que mes parents étaient croyants, très respectueux de la foi catholique, m'ayant emmené au catéchisme, mais n'étaient pas pratiquants. De ce fait-là, je n'ai jamais senti d'obligation d'aller à la messe le dimanche, mais pas non plus au catéchisme, ni des prêtres. À aucun moment on m'a demandé d'aller à la messe le dimanche. Pendant, si vous voulez, 3-4 ans de catéchisme. C'est quand même très original.
Pour l'époque, peut-être pas tant que ça.
Non, oui, mais oui. Voilà, il y a une crise de l'Église, et si on la nie, on va dans le mur. Ensuite, moi, à 19 ans, un ami m'a présenté Saint-Nicolas du Chardonnay dans la rue, et lui-même n'était pas pratiquant de tous les dimanches. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, moi qui, pour nuancer mon propos, avait eu une très belle image de la Vierge en l'enfant lors de la mort de ma tante, de ma grand-tante qui m'avait été donnée au catéchisme, je priais tous les jours. Donc le bon Dieu m'a cherché, mais moins loin que d'autres situations. Et donc, si vous voulez, ayant une piété de silence, de prière quotidienne, à un moment, je suis allé à la messe. Et j'ai découvert la messe Saint-Pie-V avec ses grandes plages de silence, ce qui correspondait à ma spiritualité. Donc je rebondis sur ce, parce que je suis parti très loin, sur le subjectivisme. Hein. Mais on ne peut pas non plus faire fi de la vie concrète des âmes. Ensuite, pendant 3 ans, je suis allé à la messe à Saint-Nicolas, j'ai découvert la confession. Donc ça brûle un peu hein, quand à 19 ans vous vous confessez pour la première fois. Et donc ensuite, je suis rentré au séminaire où j'allais à la messe. Et donc moi, les querelles de sacre, d'évêque, de juridiction, de paroisse, je m'en moquais complètement, comme encore maintenant. Et ce qui fait que du coup, je suis rentré au séminaire, j'ai prié.
À la suite, les évêques étaient déjà sacrés, vous n'avez pas connu cette crise de 88.
C'était en 89, 90, donc comme mes parents eux-mêmes ne connaissaient pas tout ça, j'étais pas enfant de tradit, Ce qui fait que j'ai vécu cela de manière extrêmement détachée, comme si j'étais en 1950 et que j'étais rentré dans un séminaire. Vous voyez, et ce qui est particulier, c'est qu'à Icône, contrairement à ce qu'on peut penser, on ne tape pas toutes les deux minutes sur les erreurs, comment dire, doctrinales, sur la crise de l'Église, en ne parlant que de ça, que de ça. Donc, j'ai pu me nourrir spirituellement en lisant, en ayant des cours tout à fait thomistes et simples, comme on en a suivi pendant des décennies, voire des lustres, 50 ans, voire des siècles, hein, 100 ans. Et donc, j'ai bénéficié de tout cela. Et ce qui fait que j'ai été ordonné en 2000, très léger, vous voyez. N'ayant pas de sens de la querelle par rapport à la fraternité Saint-Pierre, par rapport à l'Institut du Christ-Roi. Et j'ai été renvoyé de la fraternité en 2005, parce qu'en 2004, avec l'abbé Philippe Légary et l'abbé Christophe Herry, on avait fait un témoignage par rapport à une certaine dureté de renvoi de séminaristes. Voilà. Et donc, du coup, si vous voulez, en plus, je n'ai pas quitté la fraternité Saint-Pie-X pour des raisons doctrinales ou morales, donc je suis encore plus indépendant de ces querelles, et j'ai été un peu échaudé, si vous voulez, de la manière assez forte d'un renvoi d'un institut, ce qui fait que, en tant que juriste civil, j'ai eu l'instinct d'aller vers la plus grande sécurité juridique, d'où le diocèse de Paris, pour pouvoir aussi continuer ma mission pour le salut des âmes, pas seulement pour ma tranquillité personnelle. Vous voyez.
Mais alors, vous parlez du salut des âmes, nous avons évoqué l'état de nécessité. Dans le communiqué de l'abbé de Don David Pagliarani, il y a quand même l'idée qu'il est impossible de recevoir correctement, c'est ça que j'y comprends, les sacrements en dehors de la fraternité Saint-Pie-X. Et j'avoue que cela me paraît très gênant.
Mais à mon avis, ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit.
Alors, il faut trouver exactement ce qu'il a dit.
La citation verbatim, mais il est bien évident que quand Benoît XVI est allé chercher la fraternité Saint-Pie-X, il a écrit noir sur blanc qu'il ne voulait pas qu'elle se sclérose. Et donc, moi, qui étais de 93 à 2005 au sein de la fraternité Saint-Pie-X, j'ai vu les différents courants, des plus ultras aux plus modérés. Et depuis 2005-2006, j'ai connu la fraternité Saint-Pierre, j'ai connu l'Institut du Christ-Roi, l'Institut du Bon Pasteur, ben j'en suis un des fondateurs de fait, par l'abbé Légary qui en est parti, et j'y ai contribué. Eh bien, si vous voulez, je vois les ailes dures, les ailes modérées, je comprends les exclusivistes, ceux qui ont quitté la fraternité Saint-Pierre dans des diocèses pour en acceptant une concélébration de temps en temps ou la messe chrismale. Donc, si vous voulez, j'ai eu le temps d'analyser toutes ces disputes et ces querelles entre les différents courants traditionnalistes. Et ça me permet de mieux comprendre aussi ce que va dire l'abbé Davide Pagliarani, parce que je connais aussi au sein de la fraternité Saint-Pie-X ceux qui se taisent et qui n'en pensent pas moins et qui ne suivent pas exactement ce que Mgr Lefebvre disait sur la validité de la messe et sur le fait qu'elle ne soit pas absolument intrinsèquement un péché et comment dire et qui fassent perdre la foi absolument, tandis que maintenant, eux vont le dire, et aussi la validité des ordinations sacerdotales et épiscopales. C'est ce qu'on appelle l'ecclésiovacantisme. Et donc ça, c'est vraiment sous le manteau. Je n'ose pas, sur Radio Courtoisie, dire en off, n'est-ce pas? Parce que je vois le cochon devant moi.
Vous avez déjà dit « the law is the law », donc allez-y.
Voilà. Et, ah non, c'est une citation de l'anglais, c'est pas du franglais. Et donc, en considérant que les prêtres ne sont pas prêtres, certains vont aller au-delà de la crise de l'Église, qui a été dans les années 70 et 80, la perte de la foi dans la présence réelle. Ça, c'est un fait, et contre les faits, il n'y a pas d'argument. Vous voyez ? Que la foi en la présence réelle soit revenue jusqu'à la canonisation de Carlo Acutis, c'est une chose. Mais on revient de loin. Et ce n'est pas parce que ça fait déjà 25 ans que cette, le point le plus fou de la crise s'est atténué, avec la fin de Jean-Paul II et Benoît XVI, qu'on oublie ses blessures. Ce qu'on peut reprocher à la Fraternité Saint-Pie-X, c'est parfois c'est de vivre dans les excès et les abus des années 70-80.
Oui, on a l'impression que rien n'a changé, en fait.
Oui, parce mais que le problème, c'est que tout n'a pas totalement changé non plus.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'on peut saluer tous ces prêtres qui n'ont pas abandonné le sacerdoce, qui sont actuellement habillés en civil, avec une petite croix, ou pas de petite croix d'ailleurs, certains sont... et qui ne sont pas partis. Et donc, vous avez des braves prêtres des années de 80, 85 ans, qui sont là et qui sont encore à relativiser bon, les miettes de l'hostie, vous savez, bon, est-ce que Jésus est vraiment présent dans une petite particule de l'hostie ? Voilà, mais si vous voulez, un traditionnaliste, ça existe quand en 72, 75, je ne sais plus, vous avez un brave sacristain à Marseille qui, à la fin d'une messe, arrive avec le plateau de communion, avec des parcelles visibles à l'œil nu. Et le prêtre lui dit « Ah oui !» Il prend le plateau de communion et il souffle pour que les particules partent sur le tapis de la sacristie. Alors le sacristain, il a rangé tranquillement le plateau de communion et il est allé à la Fraternité Saint-Pie-X. Mais voyez-vous, de nos jours, on va voir... Alors si vous voulez, excusez-moi, je vais peut-être vous noyer pendant cette émission, mais il faudra me recentrer, me recadrer. Mais moi, je vis, depuis 2006, la manière de célébrer la messe Paul VI. Donc je vois les uns qui font ceci, je vois les autres qui font cela. Alors, lorsqu'il y a des parcelles d'hostie, ils prennent le corporal, pas le corporal, le purificatoire, donc un petit tissu, et ils font tomber dans le calice. Et ça, c'est les plus conservateurs, vous voyez ? D'autres vont simplement tapoter. Alors vous allez me dire, mais vous savez, les traditionalistes, ils vont se battre pour le nombre de coups de clochette à l'élévation. C'est ça la tradition. Ben non.
Non.
Ah non, c'est vraiment pas ça la tradition. La tradition, c'est le fait que on a subi dans les années 70 une véritable explosion de descente de la piété eucharistique, de la piété morale aussi. Pour moi, une des choses les plus graves, c'est on ira tous au paradis. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. On pourrait résumer l'hérésie post-conciliaire, alors que le Concile Vatican II n'enseignait pas ça, à ces deux chansons. Vous voyez ? Et le fait d'affirmer qu'il y a l'existence de l'enfer et la pénitence, la confession pour être en état de grâce et communier, cela a disparu entre 75 et 90.
Je peux vous donner une anecdote.
Mais c'est encore vrai.
Oui. Une anecdote néerlandaise.
Oui.
J'ai ma sœur aînée qui n'est pas spécialement tradie, encore que si on grattait, elle serait, on comprendrait qu'elle l'est. Mais elle a été horrifiée quand même, de voir des parents d'élèves, quand elle avait ses enfants à l'école, ou aujourd'hui, quand elle rencontre des gens, dire « Mais comment demander à mon fils ou à ma fille de se confesser pour la première communion ? Et c'est inouï, c'est scandaleux. »
C'est en quelle année ?
Ils n'ont jamais rien fait de mal. C'est il y a, je pense que ça fait une vingtaine d'années.
Oui, mais c'est encore vrai maintenant dans certaines parties du monde.
Je pense. Mais pour revenir juste un instant, j'ai retrouvé la citation, je n'avais pas le bon document, sous les yeux, voici ce qu'écrit l'abbé Pagliarani. « C'est triste de le constater, dit-il dans un entretien qu'il a publié à la suite de l'annonce des sacres, mais c'est un fait, je cite donc, Dans une paroisse ordinaire, les fidèles ne trouvent plus les moyens nécessaires pour assurer leur salut éternel. Je ferme les guillemets. C'est quand même très, très violent quand on pense, par exemple, à Carlo Acutis.
Tout à fait. Donc là, si vous voulez, c'est comme disait Benoît XVI, c'est une sclérose, c'est un durcissement. Mais ce durcissement, il est le fait aussi d'avoir refusé un statut canonique à la Fraternité Saint-Pie-X pendant des années, d'avoir refusé de sacrer un évêque parmi leurs sujets pendant des années. Et qu'on puisse aussi tolérer dans telle ou telle paroisse ou dans tel et tel pays, comme par exemple l'Allemagne, si vous voulez, la Fraternité Saint-Pie-X pourrait dire en ce qui concerne l'Allemagne, on est dans un extrême cas de nécessité. Mais en ce qui concerne une paroisse de l'Emmanuel à Paris, l'abbé Pagliarani a tort. Ou dans une paroisse tenue par la communauté Saint-Martin, l'abbé Pagliarani a tort.
Ou dans une paroisse nouveau, où on célèbre les deux rites,
oui.
Et où le nouveau rite est finalement très influencé, au moins par les attitudes et les gestes de l'ancien.
Voilà, mais on en revient toujours à la théologie, à la dérive théologique du fait que la messe était devenue plus uniquement la résurrection et Jésus qui se donne... sans être puritain, moraliste. Avant, on avait tellement peur de communier, c'était terrible. Et c'est vrai qu'il y a eu des excès. C'est vrai qu'on a épuisé, surtout dans des internats catholiques, des adolescents à les confesser toutes les semaines, alors que l'Église nous demande de communier une fois par an. Et des gars de 15, 16 ans et plus... se retrouvaient justement à tomber dans un véritable puritanisme parce qu'ils se sentaient obligés de communier à chaque messe auquel ils assistaient. Et ça rend dingue, si vous voulez. D'une part, si vous n'avez pas la piété pour cela, et d'autre part, si, pour que les autres ne se moquent pas de vous, vous devez vous confesser en conséquence toutes les semaines parce que vous avez une sensualité débordante et en ébullition.
Alors, monsieur le chanoine, puisque vous nous avez autorisé à parfois recadrer le débat, je voudrais revenir un instant sur la nécessité. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a un peu... perturbé, si je puis dire, dans l'annonce de l'abbé Pagliarani, c'est que cette nécessité, elle est grosso modo réitérée, comme l'avait fait Mgr Lefebvre en 87, je crois, où il annonce...
Oui, 87, 88,
oui. Sans qu'on ne puisse tout de même laisser de côté l'idée que, on les a évoqués, bon, la Fraternité Saint-Pie-X se revendique aux dernières, en fin d'année dernière, 733 prêtres, mm-hmm. me semble-t-il, mais la Fraternité Saint-Pierre en a à peu près 400, le Christ-Roi à peu près 200, le Bon Pasteur une soixantaine. On est dans un rapport de force, si on veut parler de rapport de force, mais enfin, au moins en numérique, sur une à peu près égalité de prêtres célébrant selon l'usus antiquior. Alors, dans le propos de l'abbé Pagliarani, forcément, il est obligé de dire oui, mais eux, ils cautionnent, donc ils n'apportent pas totalement ce que nous apportons.
Sans compter l'idée que eux, ils sont sur la corde raide et ils risquent de sauter
voilà.
à n'importe
voilà.
quel moment.
C'est-à-dire que Traditionis Custodes a porté un coup très sérieux à la paix et à la tranquillité de paroisses traditionnalistes.
Bien sûr.
Donc, à la limite, il aurait dû particulièrement citer ce texte pour dire « le cas nécessité a été vivifié ». Mais je vous ferai remarquer que ce n'est pas parce qu'il y a des paroisses qui se sont recentrées sur la foi catholique et la morale catholique et l'usage des sacrements dans un enseignement classique, comme on dit, vous avez des exemples qui sautent à gauche, à droite, comme par exemple cet évêque américain qui a interdit de recevoir la communion à genoux et qui a fait retirer tous les prie-dieu de ses paroisses. C'est extraordinaire, c'est qu'à le dire.
C'est un refus du droit.
Oui, non, mais
non, c'est ordinaire puisque c'est un évêque. Voilà.
Mais si vous voulez, ces personnes-là, avec ces actes-là, ça rouvre toutes les plaies d'un coup d'un seul, et c'est parti comme en 40. Si vous voulez, c'est une confrontation de faits. Contrairement à ce que au reproche, ce n'est pas subjectif. On a des faits qu'on se jette à la figure.
Oui, tout à fait.
Et par exemple, encore maintenant, vous avez dans des diocèses des préparations à la confirmation où il y a encore pas si longtemps, et même actuellement dans certains diocèses dans le monde, on va donner le sacrement de confirmation à des personnes qui ne pratiquent pas. Alors, si vous voulez, c'est contraire à l'intention de Dieu. Dieu nous a donné des aides spirituelles dans les sacrements qui sont, qui nous poussent, qui nous font grandir. Or, on ne peut recevoir un sacrement comme la Sainte Communion, ou même la confirmation qu'on reçoit une fois dans la vie, sans être, dans une cohérence par rapport aux 10 commandements. Oui, on dit, mais vous êtes des pharisiens, vous, la loi... Non, les 10 commandements se résument dans 2 magnifiques commandements qui sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Oui, mais non, vous revenez à la dureté pharisaïque, au jugement, vous jetez des pierres. Mais si vous voulez, recevoir la confirmation alors que vous n'allez pas à la messe le dimanche, ou que vous vivez en concubinage, voyez, oui, mais ça leur, vous êtes là à moraliser leur vie, vous êtes des puritains, c'est lourd. Non, laissez-les revenir vers l'Église. Ben, certes, il y a un frémissement ces 2 dernières années. Vous avez des personnes qui sont épuisées par les plaisirs et les loisirs, qui veulent avoir un sens à leur vie et qui retournent à l'Église. Mais si vous voulez, ce n'est pas parce que vous allez avoir ce frémissement que vous considérez que, la proposition de la foi dans son exigence, est donné. Et à la Finité Saint-Pédis, le premier qui donne un sacrement alors que la personne ne va pas tous les dimanches à la messe, si vous voulez, c'est pas une question de règles, c'est pas qu'une question de loi, c'est une question de vérité de la foi. C'est-à-dire que quand on aime Dieu, au moins une fois par semaine, on va le voir. Et au moins une fois par semaine, on prie ensemble. Si on veut insister sur la dimension communautaire du troisième commandement.
Alors, il est vrai, monsieur le chanoine, que tout le monde, je m'entends, je parle de un vain peuple, trouve normal que chacun fasse ce qu'il veut dans l'Église, et trouve tout aussi normal que dans d'autres religions, au contraire, il faille respecter tout ce qui est... l'Église a pris un gros coup sur l'arrière de la tête, c'est évident. Maintenant, je reviens toujours à ma question sur la nécessité. Ce qui, moi, me heurte, finalement, c'est que dans le propos de l'abbé Pagliarani, puisque c'est lui le supérieur, je ne sais jamais... quand on parle effectivement de l'Église et quand on parle effectivement de la fraternité Saint-Pédis. Quand on est obligé de dire que les autres, ils sont quand même pas assez bons, on a l'impression qu'on force un peu le trait pour que la nécessité soit bien reconnue.
Oui, mais si vous voulez, c'est une réaction épidermique. Vous imaginez des catholiques des années 50. On va voir le curé et on va lui dire, voilà... je vais me marier en Italie, et là-bas, ils veulent absolument qu'on soit confirmé. Je n'ai pas été confirmé parce que mes parents étaient plus pratiquants et que moi-même, je ne suis pas pratiquant. Est-ce que je peux être confirmé en avril prochain, à Pâques, et pour me marier en août? Là, vous voyez, le curé, en 1954, alors qu'on commence à avoir des personnes qui ne pratiquent plus, il vous regarde, et ou il a une rupture d'anévrisme ou une crise cardiaque, mais il vous dit, mais c'est pas pensable. Et donc, vous dites à un prêtre de la famille Saint-Pédis que dans un diocèse, on donne la confirmation à des personnes non pratiquantes ou en concubinage, lui, il a une rupture d'anévrisme. Et donc, pour eux, c'est tant que c'est toléré quelque part dans l'Église, ils vont peut-être en abuser, c'est vrai. Mais c'est un des éléments, ils devraient donner ces exemples publiquement et internationalement.
Mais d'un autre côté, je ne dis pas tous, mais un certain nombre de prêtres de la Fraternité Saint-Pédis vont encore plus loin en demandant, en exigeant, le cas échéant, de leurs fidèles qu'ils n'aillent pas à une autre messe que celle de la Fraternité Saint-Pédis, avec ce qui s'ensuit.
On ne parle que de la messe traditionnelle.
Je ne parle que de la messe traditionnelle. On est là face à une sorte de... une raideur qui a entraîné beaucoup, je dirais, d'hostilité, sans doute de part et d'autre, une forme de mépris, une idée que, hors de la fraternité, point de salut. C'est quand même très gênant.
Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle les jeunes s'en moquent complètement. C'est-à-dire qu'ils écoutent leurs prêtres de la Fraternité Saint-Pédis ultra, qui leur disent « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ». Mais eux, quand ils vont à la messe à la Fraternité Saint-Pierre, ils sont tranquilles. Si le sermon n'est pas en train de dire « Ah, les méchants de la Fraternité Saint-Pédis, ils sont schismatiques », et si le sermon à la Fraternité Saint-Pédis « Ah, les autres, ce sont des libéraux et ils tolèrent ceci ou cela », les jeunes sont en train de saper tout ce courant ultra à la Fraternité Saint-Pédis. Donc, espérons qu'ils seront de plus en plus nombreux, et qu'ils renverseront, si vous voulez, ceux qui tiennent cette ligne à la Fraternité Saint-Pédis. Parce qu'à un moment donné, vous voyez, il y a eu un durcissement dans les écoles de la Fraternité Saint-Pédis, qui sont nombreuses et qui font beaucoup de bien. Ils ont dit, non, il faut que les parents aillent à la messe à la Fraternité Saint-Pédis, au moins suffisamment souvent, voire tous les dimanches. Or, il y avait cette ouverture, entre guillemets, cette ouverture profondément catholique de ces écoles catholiques qui vont recevoir, là pour le coup, des enfants non pratiquants ou de parents non pratiquants parce qu'on leur fait le catéchisme. Et on va justement leur dire que Dieu est amour et que Dieu veut aussi être visité chaque dimanche et qu'il y a une vie après la mort, enfin... si vous voulez, il y a une ou deux écoles de la Fraternité Saint-Pédis en France qui ont fermé à cause de ça. Et d'autres directeurs d'écoles de la Fraternité Saint-Pédis ont dit « Ah non, 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 moi je continue à recevoir toute personne dans mon école. » Donc, si vous voulez, ce que vous dites est très, très particulier et très intéressant. Il y a ces durcissements vont aider à raviver les querelles de 88, à les entretenir, mais la réalité va peut-être un jour les dépasser, en tout cas c'est ce que je souhaite.
Mais alors à ce moment-là, moi, je me suis toujours dit que le gros avantage, d'un point de vue du fidèle, hein, je ne parle pas de la loi, ni du dogme, ni d'autre chose, mais le gros avantage de la messe traditionnelle, c'était que, quel que soit le prêtre, on savait ce qu'on recevait, tandis que à la nouvelle messe, ça dépend quand même beaucoup du prêtre. Mais là, vous êtes en train de nous dire que, pas pour la messe, mais pour ce qui est un peu de l'enseignement, etc., c'est un peu la même chose, finalement, à la Fraternité Saint-Pédis, ça dépend sur qui on tombe.
Mais il y a des... Je vous disais tout à l'heure, il y a des modérés, il y a des ultras. Mmh. Et, mais d'un autre côté, vous remettez une pièce dans la machine, à chaque fois que dans une messe d'enterrement ou de mariage, tout le monde communie. Mmh. Vous avez un... Si un prêtre même de la Fraternité Saint-Pédis, ou un fidèle de la Fraternité Saint-Pédis, assiste à un mariage où tout le monde communie, comment dire, en rigolant, où le prêtre voit une personne se placer devant lui et ne savoir même pas quoi faire, ouvrir la bouche ou tendre la main en regardant les autres, et que le prêtre donne quand même la communion, si vous voulez, pour eux, c'est hérétique. C'est tout simple, maman, hérétique. Or, il n'y a pas un prêtre...
Mais quand vous dites « pour eux », vous dites simplement « pour les catholiques ».
Oui, non mais et donc, il n'y a pas, si vous voulez, les prêtres diocésains n'osent pas faire un scandale en disant « excusez-moi, mais bon, apparemment, vous ne savez pas... avez-vous fait votre première communion ?» Et actuellement, on discute d'un point qui est une évidence d'évangile pour les tradis, c'est est-ce qu'à une messe d'enterrement, où il y a quand même un enterrement où on ose célébrer la messe, quelle est la petite phrase qu'on va dire pour éviter les communions sacrilèges? Mais on n'ose même pas dire communion sacrilège. Mais à la Fraternité Saint-Pédis, hein, dans le cas de nécessité, on essaye de retrouver notre sujet, eux, c'est communion sacrilège. Alors vous allez me dire, ils sont puritains, ils sont pharisiens, c'est des lois, non. C'est des règles, alors que Jésus a amour, et vous avez des prêtres qui... Et puis des prêtres qui ne sont pas sanctionnés. Vous avez des prêtres qui disent publiquement, mais moi je donnerai la communion même à des non-baptisés. Mm. Mais, et la Fraternité Saint-Pédis, ils sont là, ils font, oh ben lui, il n'est pas puni.
Oui, mais
ben non, il n'est pas puni. Mais alors... nous, on est punis. Ah oui, vous êtes punis. Et si vous voulez, on est là à se gratter la tête et dire, alors, bien chers fidèles, mes frères et sœurs, il vous est rappelé que pour recevoir la communion ou la sainte communion, qu'est-ce qu'on va dire, il faut mener une vie chrétienne, avoir fait sa, être baptisé, être baptisé, avoir fait sa première communion, et vivre en cohérence avec la vie chrétienne, avec les commandements. Oh non, pas les commandements. Donc, être en état de grâce. Non, 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 en état de grâce, on ne peut pas dire ça exactement. De ne pas avoir péché. Non, non, non. Hein. Ou de s'être confessé depuis pas trop longtemps. Mais c'est quand même cocasse de voir comment il se creuse la tête. Alors qu'avec le rite Saint-Pie V, si vous voulez, vous êtes là, vous vous mettez à genoux. Le prêtre vient devant vous avec un habit de lumière et un ciboire fantastique. Et il vous dit « Corpus Christi ». Et si vous voulez, la personne, elle se pose pas de question de savoir si c'est sacré ou pas. Tandis que dans un mariage ou un enterrement où le prêtre arrive et donne la communion comme il donnerait du pain, vous voyez, et ben les gens ils viennent communier, si vous voulez, c'est un des points de nécessité pour la Fraternité Saint-Pédis qui n'est pas assez utilisé. Vous voyez, moi qui suis plongé dans la pastorale, vous voyez, je le vis à fond, si vous voulez. Quand je célèbre la messe Paul VI et que je vois des personnes qui sont là par accident et qui viennent quand même communier, vous voyez, j'ose, pour certains qui sont complètement perdus, hein, je leur fais un beau petit signe de croix sur le front, et je leur dis, ça fait longtemps que vous n'avez pas communié, ou non, j'ai jamais communié. Alors, il faudrait que vous alliez voir un prêtre et que vous en parliez. Mais vous faites ça dans la ligne de communion, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et la personne, c'est devant tout le monde qu'elle ne va pas communier. C'est pas évident, hein, en effet, de rattraper des décennies d'absence de catéchisme. Enfin, d'absence, pardon, de catéchisme un peu édulcoré. Et à la fin, Saint-Pédis, pour eux, c'est un sujet épidermique. Pourquoi? Mais parce que c'est Jésus qu'on reçoit. C'est pas seulement une question de puritanisme ou de règles.
Oui.
Il y a aussi de la piété derrière. Et je vous propose d'ailleurs de lire les derniers livres sur Carlo Acutis, les notes qui ont été traduites en français. Parce qu'on se demande quand même, c'est vrai, comment ce jeune homme de 15 ans a pu avoir une foi catholique classique, où il dit qu'il faut se confesser, pour être en état de grâce pour recevoir Jésus, où il vous parle de l'enfer. Vous voyez, il y a encore 3-4 ans, vous avez une dame cathée, peut-être de 80-85 ans, qui dit « Première leçon, les enfants. » Alors là, c'est très important. C'est l'essentiel. L'enfer n'existe pas. Alors, les traditionalistes, ils ne parlent que de l'enfer, et l'essentiel dans leur vie, c'est de dire qu'on risque de se damner à tout moment. C'est pas vrai. Et là, on se jette comme ça des insultes,
anathèmes.
Des anathèmes. Si vous voulez, encore récemment, vous avez un prêtre, un docte, qui dit « Oh, mais les anathèmes, maintenant, on sait très bien qu'historiquement, il n'y en a jamais eu. » Alors, c'est les anathèmes canoniques, où on jette un anathème, mais dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu d'anathème. Jéricho, ça pas, les gens ne sont pas morts, tout ça. Enfin, Saul, à un moment donné, il doit jeter, l'anathème était jeté, il en prend toute une partie, il distribue un butin, et vous avez Samuel qui arrive et qui lui dit « Tu n'as pas obéi à Dieu ». Parce que, je ne sais pas, je vais écarter les enfants de l'écoute. Vous savez que jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, les sacrifices humains des peuples qui entouraient le peuple juif, parce qu'on va dire, oui, mais voyez, le Dieu de l'Ancien Testament, il y avait des anathèmes, il y avait des peines de mort, et il demandait à ce qu'on tue toute une ville, mais c'est horrible. Mais vous savez ce que faisaient les païens jusqu'au premier siècle? Voyez, en type de sacrifice humain, vous preniez un bébé, vous l'écorchez vif, et vous le roulez dans la farine, et il saigne, et vous rajoutez de la farine, jusqu'à ce que la farine ait absorbé le sang qui sort, et ensuite vous le faites paner. Eh bien, vous voyez, c'est ces peuples-là qui entouraient, ça c'était il y a 2000 ans, donc imaginez, il y a 3000 ans. Si vous voulez, on mettait des bébés dans des amphores, dans les fondations, vivant, bien sûr.
C'est plus drôle, oui.
Mais, si vous voulez, Dieu ne voulait pas que son peuple, qui avait la nuque raide, voyez, soit comme les autres peuples. Et donc, il était sévère, parce qu'il était entouré de peuples d'une cruauté inimaginable. Et d'ailleurs, quand Salomon a eu ses 300 femmes et ses 700 concubines, il y en a une qui a fait construire le temple au Jardin des Oliviers, dit-on d'ailleurs, le mont du scandale, où dans ce temple, un des enfants, multiples enfants de Salomon, a été sacrifié à la lune. Mais pas seulement un seul. Vous voyez? Et donc, les traditionalistes, c'est des gros méchants qui tiennent encore à l'Ancien Testament et au Dieu méchant, au Dieu qui punit, au Dieu qui châtie. Vous voyez, c'est toutes ces idées reçues qui sont fatigantes, vous voyez? Parce que, voilà.
Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, l'émission du dimanche de Radio Courtoisie, Lumière de l'Espérance, dirigée aujourd'hui par Olivier Figueras, qui a une légère laryngite, mais qui intervient quand même. Et je l'assiste, Jeanne Smith, et nous avons le plaisir de recevoir le chanoine Marc Gelfucci, du diocèse de Paris, pour évoquer la question des sacres. Et ça nous mène loin, puisque nous en étions au temple de...
Mais oui, mais oui. C'est ça le problème, c'est d'avoir des évêques qui vont enseigner la foi catholique du 19e siècle. C'est ça le problème. Et donc, c'est un vrai problème, puisqu'on considère que, comme disait un journal, c'est une messe d'une autre foi, non pas d'autre foi,
A-U-T-R-E-F-O-I-S. C'est un peu ce qu'a dit le cardinal Roche, d'ailleurs.
Oui, et ce n'est pas possible de considérer que la messe Paul VI rompt avec la théologie des siècles passés. Ce n'est pas possible.
Alors, nous allons écouter le traditionnel Bobino, parce qu'il faut bien que nous l'écoutions, et nous reprenons ensuite.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, nous sommes de retour, monsieur le chanoine, après ce rapide message, pour le soutien de Radio Courtoisie. C'est bien normal à cette antenne, si on ne le faisait pas ici, où le ferait-on? J'aurais envie de, monsieur le chanoine, pour revenir dans le siècle présent, j'aurais envie de vous demander Et à ce moment-là, quid de l'autorité? Il y a une autorité dans l'Église, elle est fondatrice, si je puis dire, elle a toujours existé. Est-ce que finalement, il s'imposerait à lui, à elle, une espèce de nécessité à rebours qui ferait qu'elle n'aurait pas le choix au final de dire ben oui ici, non ici? Comment cette autorité s'exerce-t-elle? Parce que si tout un chacun peut présenter des arguments, comme vous nous l'avez expliqué, qui sont valables, je n'emploie pas le terme de valide parce que je n'en ai pas le pouvoir, mais qui sont valables contre la décision de l'autorité, comment l'autorité s'exerce-t-elle?
Eh bien, cette question est là, à mon avis, après l'enseignement de la foi et de la morale, suivant la volonté de notre Père, qui a envoyé son Fils mourir pour les péchés et ressusciter pour nous en sauver et nous procurer le pardon, l'autorité humaine, elle est indispensable. Et il est évident que ça blesse ce principe humain important du chef, de l'autorité. Et que même si le chef se trompe, il faut savoir parfois lui obéir pour préserver un ordre dans la société. Alors je vais être très mesquin, et après avoir rappelé cette grande vérité, je vais vous dire que le prêtre qui, il y a 3 ans, a célébré la messe, les pieds dans l'eau, sur un matelas pneumatique, en slip, avec 2 servants de messe en slip, et les familles et leurs copains sur la plage, parce qu'il faisait très chaud. Mais c'est un sacrilège, il aurait dû... c'est une profanation des saintes espèces. Non, il n'en avait pas l'intention. Excusez-moi, en droit pénal canonique, on tire, dès qu'il y a un scandale épouvantable comme celui-ci, et on réfléchit après.
Il a été sanctionné néanmoins par la suite, non?
Oh, on lui a dit rien. L'évêque n'a rien dit. Lui a dit « Oh, j'ai peut-être pas assez réfléchi. » Ça, c'est sûr. Et c'est le procureur de la République italienne qui l'a poursuivi. Et ça a été classé sans suite. Et donc, si vous voulez, ce genre de fait, ça ranime tout. Si vous voulez, quand un évêque ne punit pas son prêtre qui a célébré en maillot de bain la messe avec l'eau jusqu'à la taille sur un matelas pneumatique, c'est toutes les anecdotes des années 70 qui reviennent.
Mais néanmoins, monsieur le chanoine...
Et là, excusez-moi, et on se moque de désobéir à cet évêque. Il n'a plus aucune crédibilité.
Ça,
c'est dramatique.
Je comprends, monsieur le chanoine, mais quand vous dites ça...
Il faut que je donne l'exemple maintenant actuel. C'est qu'avec l'accord avec l'Église de Chine... Si vous voulez, le gouvernement chinois, il envoie une lettre avec un nom, et, content, pas content, il est sacré. Et avec l'accord, on le reconnaît. Et là, vous avez la conférence des évêques de Chine qui vient de dire qu'il est très bien d'interdire aux enfants d'aller à la messe. Et là, si vous voulez, le Saint-Siège retient son souffle parce que c'est de haute lutte qu'ils ont fait cet accord pour essayer quand même d'améliorer, de supplier le gouvernement chinois d'être plus tolérant vis-à-vis de l'Église clandestine. Et tout ça, si vous voulez, c'est un anéantissement de l'autorité. Et ce deux poids deux mesures, si vous voulez, en ce moment... l'abbé Davide Pagliarani, il joue, sur du velours.
Certes, monsieur le chanoine, et je comprends parfaitement ce que vous me dites. La seule chose que j'ai envie de dire, en cette occurrence, c'est que les prêtres, les évêques de la fraternité Saint-Pilice sont légitimement scandalisés par tout cela, mais ils sont loin d'être les seuls. Et parmi les prêtres qui célèbrent la messe traditionnelle comme parmi d'autres prêtres, cela suscite le même type d'indignation.
Oui.
Et tout de même, l'Église continue. L'Église continue aussi bien pour la fraternité Saint-Pidis que pour les autres. Mmh. Et les autres, étant conscients de cela, ne sont pas pour autant en train de dire « il faut que nous consacrions un évêque » ou « que nous sacrions pardon, un évêque de notre propre chef parce que rien ne va plus ».
Oui,
voilà.
Et donc, ce n'est pas vrai de dire que rien ne va plus, puisqu'il y a eu de forts recentrages et de fortes restaurations depuis la fin du pontificat de Jean-Paul II.
Notamment aux Pays-Bas, hein, on est quand même plus du tout dans
tout
la
à fait.
Époque.
Donc, si vous voulez, on est dans une guéguerre de faits, mais force est de constater quand même que au XIXe siècle, en 1950, ce que fait la Fraternité Saint-Pédis n'aurait choqué absolument personne. Ils auraient eu des paroisses, des écoles catholiques, et c'était dans une indifférence complète. C'est-à-dire, tout le monde faisait ça en 1950. Donc que ça devienne un problème en 2020, que ça soit un problème en 2026, c'est sidérant. Mmh. Et donc, c'est ce fait-là qui posera toujours le problème. Comment un évêque diocésain peut-il priver dans une ville de France la Fraternité Saint-Pierre d'un apostolat de 250 fidèles avec des scouts et des catéchismes? Ça n'a aucun sens.
Bien sûr.
Et si vous voulez, tant qu'on n'aura pas dépassé cette guéguerre et qu'on ne sera pas revenu à un temps d'apostolat et d'évangélisation paisible, où les gens ne se jalousent pas, parce qu'il y a aussi, si vous voulez, le fait que lui, il a des fidèles, mais ça me prend les fidèles de ma paroisse. Et, le biais, du coup, d'utiliser des prêtres diocésains à qui on demande d'apprendre la messe Saint-Pie-V pour maîtriser le phénomène. Et là, on aura tout dit dans cette émission, c'est extraordinaire, vous avez le phénomène du pèlerinage de Chartres, qui est une claque à tout le monde, mais non seulement, mais vraiment à tout le monde. Et si on interrogeait les 18 000 jeunes, puisque la moyenne d'âge c'est quand même 20-21 ans, on dit, est-ce que vous allez parfois la mettre à la fin des Saint-Pédis? Oui. Oh, de temps en temps, là, quand je tombe sur un prêtre de la fraternité qui dit, il faut pas aller ailleurs, nous on a la vérité, les autres, ils tolèrent ceci chez les autres, même s'ils vous donnent du bon catéchisme et qu'ils célèbrent la bonne messe, mais ils disent rien, tandis que nous on dit quelque chose et on dénonce, alors qu'eux, ils sont peut-être mécontents de ça, mais ils le dénoncent pas publiquement, tout ça, nous on est les meilleurs, tout ça. Mais le gars de 20 ans. Ce qu'il veut, c'est avoir la messe ce dimanche-là.
Mais c'était un peu l'attitude de Mgr Lefebvre. C'était, il disait, laissez-nous faire l'expérience de la tradition, ce qui n'était pas une manière de rejeter les autres.
Il est mort trop tôt. Il est mort en 91.
Et Jean Madiran, rendez-nous la messe, l'écriture sainte et le catéchisme, et en avant. Mmh. Or, pour beaucoup, tout de même, alors c'est une minorité, hélas, certainement, mais il y a quand même, dans l'Église, qu'on appelle conciliaire ou officiel, il y a quand même cela. Et c'est pour cela qu'on se pose la question.
Mais pas partout.
Mais pas partout.
Et alors, ce manque de restauration totale me permet, à la Fraternité Saint-Pédis, d'ergoter encore maintenant.
Oui, mais les autres ont des ordinations qui sont faites par des évêques, modernes,
et
ça passe.
Oui, mais vous oubliez qu'avec ces 730 prêtres à la Fraternité Saint-Pédis, ils ont des priorés partout, ils ont des écoles partout, et ils ne peuvent pas quémander partout que l'évêque vienne faire les confirmations. Ils disent non, on ne va pas supplier, on ne va pas faire ceci, ça. Et alors le paradoxe, c'est que le pape François, lui, était un vrai, vrai, vrai libéral. Tout le monde... sauf pour traditionniste Goussodès. Hein, lui, il s'est durci étonnamment. Mais auparavant, il a dit, la Fraternité Saint-Pédis, Oh, vous êtes tristounet parce que vos confessions sont pas valides, que la juridiction de nécessité, c'est peut-être pas totalement satisfaisant. Je vous donne la juridiction. Oh, pour les mariages, il y a un problème. Parce que s'il y avait un vrai schisme, les mariages à la famille Saint-Pédis seraient valides comme dans l'orthodoxie. Mais les canonistes, légalistes, ils disent « Oh, il n'y a pas tout à fait un schisme quand même, enfin voilà, il faudrait quand même un peu les sanctionner, donc leurs mariages sont invalides. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si les mariages sont invalides, c'est qu'ils sont catholiques et qu'ils ne passent pas par la juridiction du curé du lieu. Mais s'ils sont totalement schismatiques, mais leurs mariages sont valides dans le schisme. Excusez-moi, mais là c'est de la technique canonique. Et donc, on est dans une sorte d'abstraction. Ce qui fait que moi, si vous voulez, il n'y a pas techniquement de schisme. Et voilà le pape François qui met le souk. On peut dire souk, ça va?
Ah, et donc,
j'ai pas dit B-O-R-D-E-L, mais je le pense. Mais c'est très vulgaire pour certaines personnes. Mais si vous voulez, comme je suis un titi parisien des faubourgs du 12e arrondissement, si vous voulez, j'ai bien envie de le dire.
Et vous avez mais après tout, Saint-Louis les avait réglementés, donc.
Monseigneur Alphonse Borras, qui n'est pas un traditionnaliste devant l'éternel, qui est un canoniste pointu et un pénaliste de l'Église très pointu, qui était à Liège, je ne sais pas s'il est encore vicaire général là-bas, qui n'est pas évêque, hein, qui est vicaire général, qui a le titre de Monseigneur, il disait que c'était un bricolage canonique absurde. Le fait que le pape François permette qu'on fasse une délégation auprès de la Fraternité Saint-Pédis pour marier, en fait, cette délégation, elle est en soi pas extraordinaire parce que tout prêtre qui n'est pas de la paroisse doit avoir une délégation pour marier. Mais les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, leur situation n'est pas claire. Monseigneur Fellay, Monseigneur de Galaretta ne sont plus excommuniés. Mais ils sont quoi? Ils sont suspens, les prêtres qu'ils ordonnent sont irréguliers, suspens. Mais c'est si vous voulez, c'est, comment dire, c'est pas clair, hein, pour pas être vulgaire. C'est vraiment pas clair. Et donc cette situation, elle perdure, et on est comme ça, dans une sorte de flou, qui énerve ceux qui veulent une église paisible, où les choses sont bien à leur place. Monsieur le curé, c'est monsieur le curé. Monseigneur, c'est monseigneur. L'autorité dans la Sainte Église. L'obéissance paisible.
Mais oui, c'est... Parce que monsieur le chanoine, excusez-moi de le dire de façon un peu triviale, mais si finalement chacun dit, moi je vais faire comme cela, parce que de toute façon les autres font bien comme cela... Ça fait un peu discussion de cours de récréation, quand même.
Sauf que donner la communion à des personnes qui vont jamais à la messe, c'est pas un problème de cours de récréation.
Ça, c'est vrai.
C'est un problème de salut éternel. Mais non, on peut se sauver. Oui, on peut se sauver dans l'ignorance invincible.
Je ne pensais pas jusque-là, mais je pensais à plus proche.
Mais c'est ça le problème. C'est le salut des âmes. Pourquoi on se dispute depuis tant d'années? C'est parce que le cœur du problème, c'est comment sauver les âmes. Comment ils vont connaître Dieu? Comment ils vont connaître le moyen du salut qu'est l'incarnation? Comment ils vont connaître les moyens secondaires qui sont les sacrements? Et un moyen parmi les sept sacrements qui est recevoir Jésus lui-même. C'est ça le problème. Et on n'a pas encore abordé l'écuménisme. On n'a pas encore abordé la collégialité. Puisque au sein même de, on n'a pas abordé fiducia supplicans, parce que vous avez quand même 700 évêques africains qui ont dit au pape, votre texte, on ne peut pas l'appliquer. C'est une grande désobéissance, 700 évêques d'un coup. Sans compter des évêques ailleurs, donc je ne citerai pas, qui ont dit, pour l'instant, on ne l'applique pas. Parce que, contrairement à ce qu'on peut dire tel ou tel prélat à Rome, bénir un couple parce qu'ils vont chercher le pain avec le sourire à la boulangère, parce qu'ils aident la petite vieille dans l'immeuble, c'est ça qu'on bénit. Et si vous voulez, s'ils vivent sous le même toit, ils ne font pas que des tricots. Vous voyez? Ou du macramé. Si vous voulez. Donc, qu'on ne veuille plus entrer dans la vie concrète des gens et dans la sexualité naturelle des gens, vous voyez, dans des pays qu'on va à ce moment-là tout d'un coup traiter de retardés, vous vous rendez compte un peu de dire toute la chrétienté africaine, ce sont des retardés. Mmh. Ils sont pas encore, ils n'ont pas encore atteint le nirvana allemand. Mmh. Mmh. Non mais.
Oui. Jeanne, je crois que nous avons des messages.
Nous avons deux messages. Un premier qui est d'une personne qui vous connaît et qui signe Denis B. Monsieur le chanoine, heureux de vous entendre. J'ai souvenir d'une messe de Requiem pour la mère d'un ami en Seine-et-Marne où le prêtre, entre guillemets, conciliaire, avait laissé sur la patène tous les brins d'hostie et vous avez eu le beau geste de tout consommer avec la poussière amassée. Merci. Donc ça, c'est un hommage. Ici, nous avons une interrogation d'un auditeur que nous retrouvons, qui est souvent ici, sur qui souvent réagit. Et nous l'en remercions. Il écrit « Pourrait-on avoir les références sur les bébés pas nés ? Je n'y crois guère. En revanche, les sacrifices d'enfants existaient chez les peuples sémitiques. Mm-hmm. Le Tophet de Carthage en témoigne et Ézéchiel, au chapitre 20, évoque le fait que Dieu a ordonné aux Israélites de perpétrer de tels actes pour les punir, bien courtoisement. » Alors là, c'est la question.
Alors la référence, je suis sûr que des historiens vous diraient dans quelle civilisation, dans Chaldée et proche, il y a eu ce genre d'atrocité d'écorcher des enfants. C'est la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich qui l'évoque dans ses visions. Et elle voit ses sacrifices. Elle a été béatifiée.
Oui, là, je fais une recherche rapide sur Internet, mais je tombe sur des babybelles bannées, donc ça ne va pas du tout. Mais de fait, et Dieu a-t-il ordonné aux Israélites de perpétrer de tels actes de sacrifice pour les punir ?
Non, c'était... alors, de nos jours, comment oser le dire ? D'ailleurs, personne n'ose le dire. C'était la peine de mort. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un anathème ? C'est, vous avez l'armée de Josué qui arrive devant Jéricho. Vous avez les trompettes de Jéricho, vous en avez, comment dire, des opéras, des tout ce que vous voulez. Mais c'était pas très drôle ce jour-là. Ils ont tourné 7 jours de suite autour de la ville pour que les murailles s'effondrent. Mais donc, des miracles comme ça, ça n'existe pas, ça a été inventé. Bon, très bien. Et ensuite, l'armée, comment dire, de Josué a fondu sur la ville et a tué tout le monde. Hommes, femmes, enfants. Ça s'appelle un anathème. Du mais c'est pas possible, le vrai Dieu peut pas demander ça. Bon, très bien, si vous voulez, mais il ne suffit pas de dire que ça n'a pas existé pour toujours se cacher. Ces peines de mort étaient dues à l'extrême cruauté des païens et au fait que l'exemple même, c'est que quelques siècles plus tard, Salomon, en épousant des femmes païennes, a toléré des sacrifices humains à Jérusalem. Et les prophètes, régulièrement, vous avez aussi Esdras qui rappelle l'interdiction d'épouser des femmes païennes. Parce qu'elles allaient les pousser à la sorcellerie, à l'idolâtrie et aux sacrifices humains. Il y a quelque chose de très fondateur dans l'histoire de la religion, de la vraie religion. Le problème, c'est de savoir justement, et ça, c'est, vous rendez-nous l'écriture, c'est de relativiser le fait qu'il y ait une religion révélée et que les autres viennent de l'imagination humaine. Et dans ce cadre-là, vous avez donc le fait que le vrai Dieu a voulu qu'un peuple garde l'intégrité de la foi. Il demande à Abraham de sacrifier son fils parce qu'il est le maître de la vie et de la mort et qu'en soi, au risque de vous choquer, Dieu peut demander un sacrifice humain parce qu'il est le créateur et le tout-puissant. Et c'est très important que Abraham ait obéi. Saint Paul nous révèle qu'il avait la certitude de la vie après la mort et de la résurrection, et qu'il offrait son fils dans cette perspective, en estimant qu'il allait retrouver son fils malgré ce terrible geste, en l'honneur de Dieu, et Dieu ne lui permet pas de sacrifier son fils. Et ainsi, pour toujours, le peuple juif a l'interdiction de faire des sacrifices humains, puisque Dieu n'en veut pas. Mais voyez, cette finesse théologique, mais elle n'existe plus dans beaucoup de séminaires où on dit « ça c'est faux ». Ce jour-là, il était fou, il était ivre, il a cru entendre Dieu, mais Dieu ne lui a jamais demandé de faire ce sacrifice. Si vous voulez...
Parce qu'eux aussi ont entendu Dieu le leur dire.
Voilà, tout à fait. C'est comme Raymond DeVos qui disait « Un jour, Dieu m'a dit de tuer ma femme. » Vous voyez. Et j'ai obéi.
Alors, pour revenir au XXIe siècle, enfin, oui. Raymond DeVos, c'était le XXe, on se rapproche... Je ne sais pas si vous avez vu ce texte de Monseigneur Eleganti, quel joli nom Eleganti, Monseigneur Eleganti, donc qui était l'ancien évêque auxiliaire de Coire, l'ancien évêque auxiliaire donc de Monseigneur Huonder, Monseigneur Huonder qui ont été sacrés de mémoire au début des années 2000, n'avait certainement pas été sacré dans l'ancienne, selon l'ancien rite traditionnel. Et qui s'est rapproché à la fin de sa vie de la fraternité Saint-Pilice, et qui a fini par être enterré à Écône, avec la présence de Monseigneur Eleganti, qui était son auxiliaire. Bon. Mais lui, Monseigneur Eleganti, il prend plutôt... Bon, il n'est plus en exercice, enfin, il n'a plus de titre, puisqu'il est émérite, mais il prend plutôt le... Il n'est pas un opposant à la fraternité Saint-Pilice en tant que tel, puisqu'il a... comme son évêque était plutôt proche, etc. Mais il trouve que cette décision, elle contrevient à certains principes. Et moi, je me dis que si même au niveau de l'Église enseignante, et je suis prêt en disant cela, même s'ils n'ont pas de juridiction, à comprendre les évêques de la fraternité dans l'Église enseignante, c'est pas la question. Mais si même au niveau des évêques, donc... des pasteurs, de ceux qui sont vraiment ceux qui enseignent le peuple de Dieu, on en est à des difficultés de s'accorder, alors même qu'on est proche sur une idée comme celle des sacres que nous évoquons en ce moment, le pauvre fidèle, mon Dieu, il fait... Bon, alors il y a ceux qui disent, moi, de toute façon, je m'en moque, je suis ce que me dit le prêtre où je vais. C'est simple, hein. Et puis les autres qui se disent, ah non, quand même, on peut pas aller jusque-là, et ils exagèrent, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein. On n'est plus qu'à 10 minutes de la fin de l'émission. Pas le temps d'entrer dans les détails. Et le pauvre fidèle, finalement, il en est réduit à ce qu'on lui dise ou on lui laisse entendre que de toute façon il peut pas tout comprendre et que qu'il a qu'à aller et que finalement il a pas la capacité d'être quoi que ce soit d'intelligent dans l'histoire, mais ce qui n'empêche pas qu'on lui assène tout le temps que c'est comme ça que ça doit être.
Et qu'il doit faire ce choix.
Et qu'il doit faire ce choix ou cet autre choix suivant l'endroit où il va. Ça a quelque chose de blessant. Pour la foi du fidèle, il n'est pas de l'Église enseignante, mais enfin la foi du fidèle, c'est quand même pas rien.
Tout à fait. Et en fait, voyez-vous, il est là, il voit ses parents se disputer sur l'heure du coucher. Le père, il est laxiste, il dit bon, tu peux te coucher à minuit. La mère, mais c'est hors de question, c'est 22 heures maximum. Allez, 23 heures, mais non, il n'aura pas son compte de sommeil et tout. Et le fidèle, donc, il voit ses parents se disputer, il voit les évêques se disputer, les prêtres se disputer. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La vie simple d'une paroisse, du temps du Saint-Curé d'Ars, du temps de Saint-Vincent de Paul.
Ouais, il y avait le diable dans la boucle quand même, chez le Saint-Curé d'Ars.
En 1950. Si vous voulez, à un moment donné, les fidèles, s'ils ne veulent pas rentrer dans du juridisme et dans de l'obéissance et dans le respect de l'autorité, et c'est bien dommage parce qu'il faut une autorité respectée, ce qui apaise le problème, c'est ceux qui vont à la messe et qui se confessent et qui ne font c'est pas de l'anarchie d'aller à la messe et de se confesser. Si vous voulez, ce qui reste de l'obéissance et de l'ordre, c'est qu'une vie paroissiale, c'est quelque chose d'ordonné et d'obéissant.
Mais par exemple, Mgr Brian Horton, qui était un des grands résistants anglais aux nouveautés liturgiques, il observait tout de même qu'il y avait deux façons d'être traditionnaliste. C'était soit d'être non pas traditionnaliste, parce que c'est d'être traditionnel, c'était soit d'opter pour la liturgie traditionnelle, soit, pour beaucoup, de rester dans leur paroisse, quelle qu'elle soit, et que chacun était persuadé d'obéir à la tradition. Et ça fait que il y a cette espèce... Est-ce qu'on ne va pas trop vers une sorte de malgré tout, de libre examen? Est-ce que...
C'est ce qu'on reproche. Hein.
Oui. Ou comme, moi, je me souviens beaucoup de Madiran, j'étais déjà présent en 1987, et donc nous avons vécu aux côtés de Jean Madiran, qui a certes beaucoup et éminemment défendu la liturgie traditionnelle. Madiran disait « Moi, je n'ose pas dire aux gens d'être pour ou contre les sacres, je n'ose pas surtout leur demander de les suivre, parce que je ne peux pas prendre la responsabilité, moi laïque, de pousser des gens vers une situation qui pourrait aboutir à un schisme », disait-il à l'époque. On en met beaucoup sur les épaules des fidèles, finalement.
Oui, et ce qui libère les épaules des fidèles, c'est que c'est, si vous voulez, ce grave problème d'une autorité légitime qui a des défauts. C'est profondément perturbant. Et à un moment donné, ils vont laisser leurs parents se disputer entre eux, et eux, ils vont aller à l'école, revenir de l'école, prendre leur goûter, faire leurs devoirs, manger et aller dormir. Et ce qui se passe depuis des décennies, à un moment donné, c'est cela. Alors, il y a des dégâts, comme les cédévacantistes, qui sont obsédés sur la légitimité, qui disent, mais puisque tel pape, tel évêque fait a tel défaut, il n'est plus évêque, il n'est plus pape. Et ils sont obsédés par la faute, ils sont obsédés par la faiblesse, ils sont obsédés par l'ambiguïté d'un ordre. Et puis alors, il y a ceux qui attaquent Vatican II toutes les deux minutes, qui ne pensent matin et soir et la nuit, voilà, il y a ça dans Vatican II, ça c'est dangereux, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Comme par exemple la liberté religieuse. Mais c'est vrai que la liberté religieuse, l'écuménisme, le dialogue interreligieux, a gelé toute une partie de l'évangélisation. Qu'on le veuille ou non. C'est, si vous voulez, à force de dire que dans l'ignorance invincible, on peut se sauver, ce que disait saint Thomas d'Aquin, mais d'insister à que ça soit presque le cœur d'une partie de l'Église, d'une vie de l'Église, eh ben, on va pas vouloir baptiser des rabbins. Moi, je vais vous donner une anecdote extraordinaire. Vous avez une évangélisation de rue. La maman et le fils, ils tombent sur un rabbin. Eh ben, ils se sont pas démontés. Ils ont dit, mais monsieur le rabbin, pourquoi vous ne reconnaissez pas Jésus comme votre Messie? Boum. Mais vous vous rendez compte, il y a Isaïe 53, le Messie souffrant, le psaume 21. Et vous n'avez pas de miracle depuis 2000 ans? Et quel autre Messie attendez-vous? Mais il n'y a pas un évêque qui oserait dire ça à un rabbin, dans une émission publique.
Un dernier message rapidement
de la part c'est l'amour. Oui.
Un auditeur qui signe Francis. Bonjour Monsieur l'abbé et toute la radio. Un immense merci à Monsieur le chanoine. Encore ce matin, j'ai souffert d'une messe où le prêtre omet volontairement au début le pardon des péchés presque tous les dimanches. Ce sont les mystiques et les saints qui m'ont aidé à grandir dans la foi au milieu de cette paroisse tiède et politisée. Mais je confirme que même en rite Vatican II, il y a des prêtres et des âmes pieuses. Je trouve ce que vous dites sur la fraternité Saint-Pilice très juste. Depuis que je les découvre, très reconnaissant de leur amour pour Jésus et l'Eucharistie, et de rappeler le cap. Je me confie à vos prières et encore mille merci.
Voilà, monsieur l'abbé, il vous reste une minute pour le mot de la conclusion.
tout le problème, c'est le salut. Tout le problème, c'est le bonheur personnel de créatures, de personnes humaines qui cherchent la vérité, qui cherchent à trouver Dieu, qui est leur Père, leur Créateur, mais qui est aussi à donner son Verbe et son Fils, qui s'est fait homme, né de la Vierge Marie. Et donc, nous nous querellons entre chrétiens, alors que l'essentiel, c'est le bonheur éternel. Et on se dispute sur les moyens, alors que vous avez des Syros Malabar qui ont telle liturgie, vous avez des Maronites qui ont telle liturgie. Il n'y a qu'une seule liturgie latine. Eh bien, étant donné l'histoire de ces 70 ans, eh bien, non. Il y a une liturgie latine qui est plus participative et traduite, et puis il y a une liturgie latine où le latin est complètement anecdotique, où c'est le sacré, le mystique et le silence qui l'emporte. Faisons la paix.
Merci Monsieur le Chanoine, merci à Jocelyn, à la technique qui a réalisé l'émission, merci à Jeanne qui m'a accompagné, merci à vous, amis auditeurs, de nous avoir écoutés, et je vous dis au mois prochain.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Olivier Figueras, assisté de Jeanne Smits, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 15 février 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.